La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Alors, ajoute donc ton grain de sel au dossier de la SAQ.
En fait, j'ai ajouté mon verre de vin.
Ton verre de vin, oui.
En fait, oui, effectivement, j'écoutais ça, puis je disais, oui, effectivement, les employés ont un gros bout du bâton, parce que on peut pas dire aux employés, vous êtes chanceux d'avoir un emploi comme celui-là, comme argument présentement. Tu respectes un job au Québec. Et donc, après ça, tu arrives avec la pression du consommateur, qui veut que le gouvernement s'entende, parce qu'il va avoir son caribou pour Noël. T'as les tablettes vides, t'as la pénurie, t'as la sécurité d'emploi, t'es dans un monopole. Le monopole peut fixer les prix. Donc, même si le consommateur a une certaine élasticité dans sa capacité de payer, l'employé de la SAQ sait très bien que la SAQ peut jouer avec sa marge. Et donc, une grève, c'est une perte de revenus direct pour le gouvernement sous tout plein de formes. Mais pour l'instant, Paul, on a des solutions. Il y a des buvettes présentement que si tu achètes un pot de crudité, tu peux acheter du vin. Donc, ça, c'est des solutions alternatives pour les restaurants qui ont des stocks. Donc, tu as des vins d'importation privée qui peuvent se vendre à d'autres endroits, qui passent par la SAQ quand même, mais il y a des stocks ailleurs peut-être en plus grande quantité. Maintenant, les états financiers parlent.
Mais je te dirais que même pour les importateurs privés, c'est assez compliqué.
Ah oui? Oh, oui. Moi, je te parle plus. Il y a des restaurants qui, avec un pot de sauce, peuvent te vendre, disons, une bouteille de vin et qui ont stocké.
Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un inventaire parce que...
Il y a quelques endroits comme ça à Montréal qui sont bien stockés et qui sont très contents dans le moment qu'il y a une grève SAQ. Je peux te parler aussi de répartition de la valeur parce que l'employé fait des fois le faux argument de regarder le résultat global. Dire, ben la SAQ a fait 1,2 milliards de bénéfices nets. Si tu ajoutes les autres types de revenus du gouvernement comme les taxes, ben c'est très payant. Et donc, on devra une redistribution de la valeur. Donc, on ne regarde pas la valeur du service, mais la valeur du profit. Tu sais, quand les entreprises se servent du profit pour dire on n'a pas les moyens de vous payer, ben les employés se servent du profit quand c'est rentable pour eux de le faire. Et le gouvernement, évidemment, il y a des taxes provinciales, des taxes spécifiques versées au gouvernement du Québec, des taxes fédérales, des droits d'assises. Et donc, quand tu achètes une bouteille de vin 15 $, c'est la portion, disons, majoration de la bouteille qui sert à payer l'employé. Alors, moi, je regarde ça froidement, puis c'est sûr que si tu es un employé présentement, je pense que tu peux tout te permettre quasiment dans tes négociations. Dans tous les secteurs, t'as tellement le gros bout du bâton parce que y en a pas de plan B. Et c'est pour ça peut-être qu'on avait un rejet de l'entente si fort. Mm-hmm. Puis comme tu disais tantôt, c'est le moment ou jamais. Puis chacun, c'est chacun pour soi dans la vie. Hein? Puis quand t'as un levier une fois dans ta vie, tu te dis, je vais en profiter, ça repassera plus. Et c'est une entente collective qui dure plusieurs années. Donc si tu manques ton coup présentement, c'est une perpétuité. Tu sais, disons que tu laisses aller 2 % de salaire. Mais après ça, c'est 2 % puis l'année suivante, c'est 2 % sur 2 % puis ça, c'est à vie jusqu'à 60 ans. Et donc, t'es bien mieux de négocier fort quand tu négocies. Je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde. Moi-même, Paul, je commence à manquer de vodka. Mais je comprends les enjeux. Puis je comprends aussi les enjeux des patrons qui
ben,
disent...
Ben là, c'est le rapport de force. Là.
Le gouvernement dit ça nous prend tel dividende pour rentabiliser l'État. Puis on le fait avec le vin puis le spiritueux. Alors, on veut avoir notre chèque. Donc, c'est un jeu de pouvoir.
Entre-temps, on commence à peine à avoir quelques détails sur nos amis du baseball. Monsieur Bronfman nous parle d'un projet de 1 milliard puis il prendrait un 300-350 millions du gouvernement.
Ouais, on ne sait pas trop sous quelle forme, on ne sait pas encore quelle portion serait pardonnable ou pas, mais mettons quelques bémols par contre. La CAQ, selon ce qui est dit dans la presse, a une bonne approche de dire quels sont nos revenus réels supplémentaires, c'est-à-dire l'impôt québécois des joueurs. Faites attention, ne vous estimez pas trop chanceux, là. L'impôt d'un joueur non résident qui joue à temps partiel au Québec quelques jours par année, c'est pas le Klondike, OK? Donc, c'est quelques millions. L'autre point, quand on me dit, ouais, mais la construction du stade va apporter des recettes fiscales, OK? On peut-tu faire un petit joke entre-temps? Disons qu'on fait pas un stade, là, mais qu'on fait 500 condos sur l'espace. On s'entend-tu que ça génère aussi des recettes fiscales? Donc, l'argument de la construction du stade est pas très bon. Parce que stade pas stade, si on utilise le terrain à des fins de construction, il y a un projet. Et disons que c'est les terrains qui manquent au Québec, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui serait prêt à le prendre. L'autre point, c'est le tourisme extérieur. Faut qu'on me démontre qu'il y a des touristes qui vont venir à Montréal à cause du baseball, qui ne seraient pas venus et qui n'auraient pas dépensé ici. Donc ça, c'est le vrai touriste marginal qui remplit une chambre d'hôtel pour le baseball. Lui, il se dit, là, je m'en vais à Montréal, puis je vais aller voir les Rays de demi-Montréal. Et l'éléphant dans la pièce, qui est toujours l'angle monde, l'angle mort, c'est qui va prendre le risque du stade, de l'entretien? Qui va faire le cash si l'équipe est vendue ou déménage? Quel sera le rendement de Claridge et la hausse de valeur de leurs autres actifs immobiliers financés par le privé et gagnés par le privé aux régions limitrophes du stade?
Mais je veux dire une chose. Moi, je suis un peu tanné, là, de cette espèce de manie...
Couleuvre.
Oui, de pas dire les choses. Tu veux l'argent public, fine. Viens nous dire combien tu veux, pourquoi tu le veux, puis défends ton argumentaire sur la place publique. Là, c'est... On a un ministre du baseball, on a un ministre du hockey, puis là, on fait du lobbying, puis on navigue à travers tout ça. Moi, je trouve ça odieux de la part de Bronfman et compagnie, là.
Moi, ça me fait penser à un club Saint-James. Tu sais, là, les gars sont habitués de se voir dans le club privé entre hommes d'affaires. On jase entre personnes d'affaires. Puis on a un petit sentiment de clan des scoles. Et là, quand on arrive publiquement, on mettra le public devant le fait accompli quand on aura le deal avec les Rays et le deal avec le gouvernement. Et moi, ça fait pas mon affaire. Et Paul, je vais te donner un exemple complètement opposé, juste pour qu'on se comprenne bien. Disons qu'une compagnie s'appelle McSween Inc. puis demandait 5 millions de dollars pour bâtir un plex, puis mes arguments seraient les suivants. Je vais construire un immeuble, un nouvel immeuble, donc il va y avoir des recettes fiscales pour la construction. Je vais loger 4 familles de nouveaux immigrants qui viennent au Québec parce qu'ils ont un nouveau logement. Il va y avoir des salaires pour les locataires qui vont consommer dans le quartier, donc je veux que le gouvernement me compense. Ah oui, ils vont vivre, ils vont dépenser de la TPS TVQ, donc vous allez vous refaire. Et donc, j'aimerais que vous financiez McSween Inc. pour financer mon 5 millions de projets d'immeubles. Parce que ça a des recettes fiscales pour le gouvernement. Je m'excuse, il y a toujours des recettes fiscales pour le gouvernement dans toutes circonstances. Et n'oubliez pas que le stade ne paiera pas de taxes foncières à Montréal. Tandis que si on mettait des entreprises là, ou des condos, ou un projet de restaurant, ou peu importe ce que ce serait, il y aurait des recettes fiscales. Et dernière affaire, n'oubliez pas l'effet de cannibalisation économique. Si on va aux expos, aux Rays, on va peut-être pas ailleurs, on dépense peut-être pas ailleurs, on déplace peut-être de l'argent. C'est la valeur ajoutée supplémentaire qui est intéressante. Et la question qui tue à la fin, à qui ça paye vraiment toute cette patente-là de quelques matchs de baseball professionnels à Montréal? Qui est le plus gagnant? Est-ce que c'est vraiment le Partisan? Est-ce que c'est vraiment le Québec ou c'est Claridge et le baseball majeur?
Merci, monsieur.
Salut.
Salut.
C'est 23.